passe entre deux époques qui bouleversent leurs idéaux. Shakespeare in Love pour le ciné culte, Salomé pour l'opéra. Et enfin, ciné pour les tout-petits, Peppa Pig. Toujours à l'affiche, Mission Impossible, The Final Reckoning, Lilo et Stitch, Les Maudites, Partir un jour, Destination Finale, Lien de sang, The Shameless, Les Musiciens, Thunderbolts, La Légende d'Oshi, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, The Amateur, Sinners, Astérix et les Vikings et Minecraft, le film. Cinéma d'ici et d'ailleurs, drame autrichien, français, allemand, somalien, un petit village du désert somalien, torride et venteux. Marmagade, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fils, Sigal, une vie meilleure. Alors qu'elle vient de divorcer, sa sœur Arawello revient vivre avec eux. Malgré un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes naturelles, l'amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée. Attention, dernière séance pour Mikado.
Infomag vous est présenté par la Société Lefroy et Coca-Cola. Suivez toute leur actualité sur leur page Facebook et Instagram.
Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Le débat sur les protections de marché, la FINC qui a démissionné d'NCECO reste vigilante sur le sujet. Son président Xavier Benoît était ce matin notre invité. Le début de la phase d'admission à Parcoursup, une étape importante pour les élèves de terminale qui envisagent de poursuivre leurs études dans le supérieur. Dans la région, le Premier ministre australien dit non à Donald Trump. L'administration américaine voulait que l'Australie augmente son budget défense. En métropole, l'actualité toujours dominée par les violences qui ont accompagné la victoire européenne du PSG. Le ministre de l'Intérieur affirme que le dispositif de sécurité n'était pas insuffisant. La statue de cire d'Emmanuel Macron s'évapore du musée Grévin pendant quelques heures. Une action menée par Greenpeace, récit à suivre dans ce journal. Et puis en tennis, la Française Loïse Boisson, nouvelle coqueluche à Roland-Garros. La joueuse de 22 ans a battu la troisième joueuse mondiale et se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. Une première depuis 2017, hommes et femmes confondus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nicolas Legrand, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Puisqu'on vous retrouve juste à la fin de ce journal pour le magazine Citoyen qui sera consacré cette semaine à coaching cadre.
Oui, puisqu'il n'existait aucun accompagnement pour ces cadres qui se sont retrouvés sans emploi à la suite des émeutes de 2024 et qui rencontrent d'énormes difficultés pour retrouver un travail. Résultat, la province sud a décidé de déployer ce dispositif inédit. 25 d'entre eux ont été sélectionnés pour l'expérimenter. Pendant 6 mois, ces participants vont recevoir les conseils d'une coach, apprendre à développer leurs compétences et finalement à retrouver un emploi. Pour en parler, nous serons en compagnie de Janine Valagatoukeye, chef du service emploi-logement à la province sud, de José Marquez, qui est conseiller emploi-logement à la fois, de Cybèle Carpentier, qui est coach, et de Philippe Richard, qui est un cadre bénéficiaire de ce parcours.
On vous retrouve donc pour le magazine Citoyen dès la fin de ce journal. Un incendie hier en fin de journée au Mont d'Or. Ce sont des bambous qui étaient en feu, rue des Tabous à la Coulée. 2 maisons ont été un temps menacées par les flammes, mais les pompiers sont rapidement intervenus et ont permis d'éviter que les maisons ne prennent feu. On notera tout de même qu'une ligne électrique est tombée au sol. Le courant a été coupé. 34 clients ont été privés d'électricité pendant 5 heures. Les agents de EC sont intervenus dès hier soir pour rétablir le courant. On reparle des protections de marché au lendemain du vote du Congrès qui a levé l'insécurité qui pesait sur les entreprises de production locale. Depuis 2019, le dispositif devait être transformé, mais les choses ont pris du temps et finalement, il a été décidé la prorogation des mesures transitoires de régulation de marché. Une décision saluée par Xavier Benoît, le président de la FINC, qui était notre invité du matin à 7h30 et qui se déclare satisfait.
À plusieurs niveaux, elle nous satisfait parce que d'abord, ça nous permet de sortir d'une impasse juridique. On ne sait plus très bien où est-ce qu'on en était parce qu'on avait fait semblant de continuer à faire vivre les régulations pendant cette période-là. C'est une bonne nouvelle que ça a été voté à l'unanimité du Congrès. Donc ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire « Ok, on sort de cette impasse et on en finit avec cette transposition des régulations qui existaient ». Et puis, on est content parce que ça a été fait aussi avec l'assentiment du du gouvernement en charge du sujet, donc ça veut dire que tout le monde est aligné et maintenant on peut y aller.
Et dans un communiqué, la FINC salue à la fois la sagesse et le réalisme des élus avec ce vote qui redonne de l'oxygène aux entreprises impactées et à leurs salariés. Un audit a été lancé par le gouvernement pour mesurer l'impact des protections de marché. La FINC affirme être prête à une évolution de la réglementation, mais elle affirme que malgré les critiques, c'est un dispositif vertueux.
C'est un outil qui est un bon outil d'accompagnement pour développer de l'industrie de transformation l'alimentation et de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie. Donc on pense qu'il faut le maintenir parce que c'est un bon outil. Évidemment, ce qu'on dit, c'est que la loi, elle dit que chaque année, on devrait faire un rapport sur le dispositif qui devrait être débattu au Congrès, qui devrait être publié. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais comme je vois que le Congrès s'est emparé hier par un projet de loi de la question de l'évaluation des politiques publiques, on espère que au moins déjà ce qui est inscrit dans la loi, ça va être mis en œuvre. Par contre, effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut l'évaluer, éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain et bien mesurer les impacts positifs. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'accepte plus qu'on nous dise que la vie chère, elle est liée aux régulations de marché en Nouvelle-Calédonie, parce que les régulations de marché, ça pèse assez peu dans le panier de la ménagère, et donc il ne faut pas dire n'importe quoi.
Et la FINC s'est battue sur le cahier des charges de l'audit pour obtenir une évaluation quantitative du dispositif. Elle se dit d'accord pour ajuster le système, mais sur des bases quantitatives, évaluées et objectives. Xavier Benoît a également été interrogé sur la décision de la CPME et de la FINC de quitter NC Eco, à la création de laquelle ils avaient participé. Il évoque les raisons qui ont guidé la FINC.
On pensait qu'effectivement, c'était bien qu'on ait une position unanime du monde économique pour porter la création d'un nouveau modèle économique et social, et que notre voix serait mieux entendue si on était unanime. En fait, le travail il a été fait, et puis depuis quelques mois, effectivement, on a un peu atteint le bout de l'exercice. Donc ça, c'est la première explication qui fait qu'on pense que ça ne sert à rien de faire perdurer un dispositif qui ne produit plus d'éléments. Le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'on avait des désaccords sur les prises de parole et sur le porte-parole de NC Eco. Aujourd'hui, on pensait qu'il n'y avait pas de transparence sur la prise de parole. Il y a eu des événements récents où effectivement, la position notamment de la FINC, mais la CPME a la même position, n'était pas entendue et que les positions développées par certains porte-parole de NC Eco ne nous convenaient pas. Et donc, on pense qu'il valait mieux, plutôt que de laisser pourrir la situation, dire que chacun reprend sa liberté de parole et porte sa voix et ses points de vue dans le débat actuel.
La FINC, qui est rattachée au MEDEF et à la CPME, demande par ailleurs à être reconnue comme organisation représentative au niveau interprofessionnel. Xavier Benoît, qui affirme que l'industrie de transformation est capable de créer des emplois pour compenser les 12 000 emplois perdus en 2024, même s'il se montre très préoccupé par la situation économique de la Nouvelle-Calédonie.
Tous les signes montrent que la situation continue de se dégrader. On a une étape très importante, celle du 30 juin, où le dispositif de chômage partiel spécial exaction va prendre fin, et donc les entreprises vont devoir faire des arbitrages. Le nouveau dispositif porté par le gouvernement aujourd'hui n'est toujours pas validé par le Congrès, et donc on est sur une situation très compliquée, et malheureusement on est sur un cercle non vertueux qui fait que moins il y a d'activité économique dans le privé, moins il y aura de rendement fiscal, plus on aura du mal à accompagner les Calédoniens. L'urgence, alors nous en tous les cas, au niveau de la Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie, notre urgence, c'est d'accompagner des politiques publiques qui vont permettre de créer massivement de l'emploi. On a perdu 12 000 emplois en 2024, on continue d'en perdre en 2025. Donc on sait qu'on a entre 10 000 et 20 000 emplois à recréer dans les 18 mois à venir.
Une interview de Xavier Benoît retrouvée en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. La phase d'admission de Parcoursup a débuté ce matin pour les futurs étudiants calédoniens qui veulent poursuivre leur cursus dans le supérieur. C'est un moment charnière pour les élèves de terminale qui commencent à recevoir les réponses à leurs vœux d'orientation. Une étape souvent stressante au cours de laquelle on peut se voir accepté, refusé ou placé en liste d'attente. Mais pas d'inquiétude pour autant, les étudiants qui sont en liste d'attente vont juste devoir attendre car le classement évolue, explique Laurent Bartoletti, en charge de Parcoursup auprès du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Ces réponses, en fait, ça va être des réponses qui peuvent être soit positives et ils ont déjà la proposition. Dans ce cas-là, le candidat doit se positionner sur chacune des propositions en indiquant s'il accepte ou refuse la proposition. Ça peut être des réponses où ils sont en attente, c'est-à-dire que la formation a accepté leur dossier, mais pour l'instant, ils sont classés trop loin sur la liste pour avoir une proposition. Ils voient du coup leur place dans la liste d'attente, sachant qu'ils peuvent accepter une proposition et conserver ses vœux en attente, si jamais ils préfèrent plus tard avoir ces formations-là. Sachant que les listes d'attente évoluent de jour en jour, il y a une mise à jour toutes les nuits. Donc un candidat va très très vite évoluer sur les listes d'attente et peut avoir des nouvelles propositions dans les jours à venir. Donc on peut avoir des listes d'attente qui sont très très longues, mais les candidats, à partir du moment où ils vont choisir une formation, ils vont libérer des places sur les autres formations. Et donc on peut être très très loin sur une liste d'attente, mais évoluer très rapidement.
La phase d'admission se termine le 11 juillet. Si vous n'avez pas eu de réponse positive, une phase complémentaire se déroule jusqu'au 11 septembre pour formuler de nouveaux vœux. Actualité scolaire toujours avec le collège Georges Baudoux. Il a inauguré ce matin son nouveau CDI, Léo Fichou.
Oui, un espace entièrement réaménagé au cœur de l'un des plus anciens établissements scolaires de Nouméa. Cette transformation s'inscrit dans le cadre du plan Collège Nouvelle Génération de la Province Sud. L'objectif, moderniser et proposer aux élèves un lieu adapté aux nouveaux usages pédagogiques. Lecture, production numérique et outils interactifs. Gilles Brial, deuxième vice-président de la Province Sud, revient sur le déroulement de ce dispositif.
On adapte nos constructions et nos investissements aux besoins des équipes pédagogiques. Donc c'est les équipes pédagogiques qui définissent un projet d'amélioration d'accueil des élèves, des parents ou des professeurs. Et ils présentent leur projet. On a une commission, une sorte de jury de concours et on sélectionne les projets les mieux. C'est la province qui suit la réalisation des travaux et qui donne le livrable, mais qui peut être à la fois sur l'immobilier, c'est-à-dire qu'on travaille sur les bâtiments, mais également sur tout ce qui est l'équipement, les tables, tout le mobilier. Et l'objectif, c'est qu'ils aient d'équipements qui correspondent aux nouvelles façons d'enseigner. On a besoin d'avoir beaucoup plus de mobilier dans les CDI modulables, parce qu'ils vont travailler par groupe de 2, par groupe de 4, de 10, et donc avoir du mobilier qui puisse se bouger et se mettre en place rapidement. Et c'est le cas de ce CDI-là.
Et ce projet de rénovation se fait également à l'aide des élèves qui ont pu donner leur avis et participer au choix de ce qu'ils souhaitent voir évoluer dans leur CDI. Elliot et Zoya, élèves au collège de Baudoux, reviennent sur ces nouveaux changements.
Je voulais un endroit qui soit plus grand, où on puisse parler, où on puisse jouer tous ensemble, qu'on puisse se rencontrer. Donc il y a des canapés, au milieu il y a des tables, il y a déjà des échiquiers dessus. En dessous il y a des jeux, on peut jouer, on peut se rencontrer.
J'ai pu voir les photos et franchement il était moins accessible. C'était pas très ouf, les canapés ils étaient très vieux. Maintenant il y a les plantes, il y a la clim. C'est vraiment bien.
Et chaque année, une dizaine de projets voient le jour. Prochainement, c'est le collège de Tuban qui bénéficiera d'un tout nouveau CDI.
En bref, le lancement de la 4e édition du rendez-vous des petits entrepreneurs. Après une année d'interruption, la CCI relance cet événement qui aura lieu le dimanche 23 novembre prochain à Nouméa et à Koné. Cette opération permet, je vous le rappelle, aux jeunes Calédoniens de vivre l'expérience de l'entrepreneuriat en créant et en gérant leur propre petite entreprise le temps d'une matinée. En 2023, plus de 600 jeunes ont participé à cette opération. Et pour y participer, sachez que les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 septembre pour les jeunes de 6 à 17 ans. Informations et inscriptions à retrouver sur le site internet www.rdvpetitsentrepreneurs.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Après la mort d'un homme victime d'une crise cardiaque devant l'hôpital de Koumac, dont les urgences sont fermées, craignez-vous d'autres drames en raison de la crise sanitaire qui frappe la province Nord? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier est 76% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils n'approuvent pas la méthode de Marine Le Pen qui propose à la Nouvelle-Calédonie une pause institutionnelle pour laisser la priorité au développement économique avant un référendum d'autodétermination dans 40 ans. Ils sont 24% à dire qu'ils approuvent la proposition de la chef de file des députés RN. 11h42, la première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie dans un instant, mais aussi dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing.
Chicken wing. CGL, envie d'un repas rapide ou d'un plat qui déchire, essayez nos chicken wings en version Tex-Mex bien relevé ou barbecue tout en douceur, prêt en quelques minutes et pleine de saveurs.
CGL, tous les jours et les grands jours. Rendez-vous au 4 186 rue Jacques Yekawe, 4e kilomètre. Le 4, faites vos courses autrement. Retrouve toutes nos informations sur la page Facebook Le 4.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie est le savoir-faire des services de santé des armées exposé pendant 3 jours à Nouméa. Un séminaire international de santé de l'Académie du Pacifique a débuté ce matin au Méridien, Léo.
Un événement qui s'inscrit dans la continuité des actions menées par les FANC dans le cadre de l'exercice Croix du Sud 2025 et qui réunit des représentants militaires des îles Fidji, Kiribati, du Vanuatu, du Nauru et des Tonga. L'objectif est assez simple, renforcer la compréhension mutuelle, la coopération et l'interopération entre les services de santé des armées et les acteurs civils du Pacifique Sud. Le général de division Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Ce qui est prévu, c'est d'avoir un échange de bonnes pratiques, partager nos expériences en termes de gestion de catastrophes naturelles, comme on a pu le voir lors des exercices Croix du Sud, mais aussi des démonstrations de matériel, d'équipement, pour que chacun puisse apprendre des autres, qu'on apprenne sur les techniques particulières de nos voisins et puis qu'on puisse montrer le savoir-faire du service de santé des armées françaises, qui a une habitude et une expertise de l'urgence, l'urgence sur des théâtres d'opération, mais aussi l'urgence sur des zones post-catastrophe naturelle. Et donc cette expertise, elle est intéressante à partager avec nos camarades du Pacifique qui sont aussi soumis à des difficultés suite à catastrophes naturelles très régulièrement.
Et au programme notamment ce matin, la présentation des interventions des médecins des armées à Mayotte après le passage du cyclone Chido, mais aussi une session de formation qui aura lieu jeudi pour prodiguer des soins en milieu isolé. Parmi les personnalités présentes ce matin, Claude Gambet, membre du gouvernement en charge notamment de la santé. Un temps d'échange et d'apport de compétences important pour la Nouvelle-Calédonie et les pays du Pacifique. Il faut travailler en réseau, ce sont les mots de Claude Gambet ce matin.
Nous avons un handicap, c'est la mer. Donc c'est très important de pouvoir travailler en réseau. Alors, il convient également de le faire dans le cadre du secours aux personnes. Et c'est ce que moi je suis tout à fait heureux que le service de santé des armées puisse initier ce genre de coopération. On a ici des pays du Pacifique, nous avons Fidji, Vanuatu, Nauru, etc., qui sont présents. Je pense que c'est important de changer de paradigme parce que dans le monde de la santé, on a l'habitude de travailler de manière cloisonnée. En milieu insulaire, comme dans le Pacifique, il convient plus que jamais de pouvoir travailler en réseau. Ça, c'est très, très important, voire pour le bien de l'intérêt général de nos populations du Pacifique.
Le séminaire international de santé de l'Académie du Pacifique continue jusqu'à jeudi après-midi, toujours au Méridien.
À Radio Rythme Bleu, 11h45.
Les candidates à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2025 ont été sélectionnées. Elles sont 8. L'élection avait été annulée l'an dernier, mais le concours reprend cette année. Une trentaine de Calédoniennes se sont inscrites. 12 d'entre elles ont passé l'étape des présélections. Et à la fin, il n'en restera que 8 qui seront présentées dans 15 jours. Stella Levanao, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie.
On a passé un excellent moment avec les candidates et dernières candidates. Donc c'est toujours difficile parce qu'on ne peut pas prendre toutes les demoiselles. Donc on en a 8 candidates. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça représente la Nouvelle-Calédonie, qu'il y a un métissage incroyable et je suis vraiment contente. Après, encore une fois, je rappelle que le comité de Nouvelle-Calédonie ne participe pas au vote pour des raisons d'équité. Le jury est composé de partenaires de l'élection, de partenaires privés. On remercie très chaleureusement d'ailleurs. Notre thème s'intitule « Naturel ». Nature, apostrophe, L-E-2-L-E-S. On a voulu vraiment se concentrer sur la terre, sur l'ancrage au sol. On a un message de vivre ensemble, de paix, hein, pour que la Nouvelle-Calédonie puisse rayonner. Elle est solaire, la Nouvelle-Calédonie, elle est unique et on a vraiment envie de contribuer à cette promotion de notre pays.
Les 8 candidates auront 3 mois pour se préparer à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie qui aura lieu le 6 septembre prochain. La fête nationale italienne célébrée hier soir à Nouméa, le consul d'Italie en Calédonie avait réuni des membres de la communauté italienne avec de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le haut commissaire et le maire de Nouméa. C'est la première fois que Riccardo Baroni organise une réception pour la fête nationale italienne et il avait une bonne raison de le faire, nous a-t-il dit.
Ça fait 23 ans que je suis le consul honoraire d'Italie et je ne l'avais jamais fait. J'y tenais absolument cette année puisque l'année dernière, il n'y a absolument rien qui a été fait au sein de la communauté italienne vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. J'ai beaucoup apprécié la communauté italienne qui m'a soutenu, qui m'a même proposé de m'aider. Et donc, c'était indirectement pour moi un geste de remerciement que je voulais faire pour la fête nationale.
Combien de ressortissants italiens vivent en Calédonie aujourd'hui à peu près ?
Je ne l'ai jamais su jusqu'au début des émeutes. Et au début des émeutes, mon gouvernement m'a envoyé une liste avec tous les ressortissants italiens en Nouvelle-Calédonie au cas où il fallait les évacuer, et nous sommes 338 exactement. Il y a très peu d'Italiens qui sont partis, et ça me fait plaisir qu'ils soient restés en Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils veulent reconstruire le pays avec les Calédoniens.
En Italie, la fête nationale est célébrée le 2 juin. Elle commémore le référendum institutionnel de 1946, juste après la guerre, lorsque les Italiens ont fait le choix de la République. L'actualité dans la région avec le non du gouvernement australien aux USA. L'administration Trump avait demandé à l'Australie d'augmenter son budget défense. C'est donc non, a rétorqué le Premier ministre australien Anthony Albanese. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le budget défense de l'Australie plafonne actuellement à environ 2% du PIB. Les États-Unis viennent toutefois de demander à Canberra d'augmenter ses dépenses militaires le plus rapidement possible en vue de les faire atteindre 3,5% du PIB. Le secrétaire américain de la Défense, Peter Hegseth, a expliqué que cette mesure était nécessaire pour contrer la menace réelle et imminente de la Chine, laquelle, toujours selon lui, se prépare à utiliser sa puissance militaire pour modifier l'équilibre des forces dans l'Indo-Pacifique. La requête de Washington vient toutefois d'être rejetée par le Premier ministre australien Anthony Albanese. Nous déterminerons notre politique de défense, a-t-il dit. Nous continuerons à investir dans nos capacités, mais aussi dans nos relations dans la région, a-t-il ajouté. Une prise de position qui, à n'en pas douter, va plaire à la Chine, mais va déplaire aux USA. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et à 11h50, on va marquer une nouvelle pause et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Dimanche 15 juin, c'est la fête des pères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Les Trois Brasseurs au 24 15 16. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des pères sur la page Facebook Les Trois Brasseurs Nouméa.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord l'actualité en métropole avec la suite des violences qui ont accompagné la victoire du PSG en Ligue des Champions. Magasins pillés, abribus, voitures, vélos cassés, vandalisés. La liste des exactions est longue et il faut y rajouter évidemment les attaques contre les forces de l'ordre. Le préfet de Paris, tout en reconnaissant une forme d'échec, se refuse à parler de faille sécuritaire. Même constat de la part du ministre de l'Intérieur, pris à partie par les partis d'opposition. Bruno Retailleau a redit que le dispositif de sécurité n'était pas insuffisant.
Ceux qui pensent qu'il aurait fallu plus de policiers ou de gendarmes pour arrêter les barbares se trompent. Ceux qui pensent que la question de la doctrine du maintien de l'ordre est en cause se trompent. Et ils trompent aussi les Français. On ne mettra jamais des cordons de CRS devant chaque vitrine de magasin. Vous ne mettrez jamais des escadrons de gendarmes mobiles sur chaque carrefour, dans chaque rue. D'ailleurs, les consignes qui avaient été passées, dont nous avions discuté avec le préfet de police, étaient très claires. C'était d'intervenir systématiquement. J'espère que les sanctions de l'autorité judiciaire seront exemplaires et seront très très lourdes. Et c'est un fait beaucoup plus général que la question du maintien de l'ordre. S'il ne s'agissait que de maintien de l'ordre, ce serait simple et ce serait déjà résolu. C'est une question de société. Il va falloir reconstruire une société sur d'autres piliers, sur d'autres murs porteurs qui ont été méticuleusement, méthodiquement, ces dernières décennies, déconstruits.
Bruno Retailleau évoquait la réponse judiciaire vis-à-vis des casseurs. Près de 600 personnes ont été interpellées dans toute la France et les premières comparutions immédiates ont eu lieu. Les 13 suspects présentés la nuit dernière devant le tribunal judiciaire de Paris sont ressortis libres. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Les juges ont dans chaque cas justifié ces décisions par les casiers judiciaires vierges des émeutiers. Des jeunes hommes, la petite vingtaine, entre 20 et 24 ans pour ces premiers prévenus, tous habitent en banlieue parisienne, chez leurs parents. Dans le box, on a Brahim de Colombes, Bayo qui vit à Montmorency, Aurélien habitant en Seine-et-Marne, Ali à Corbeil-Essonne. Voilà quelques exemples. Tous ont un survêtement ou un maillot du PSG sur le dos, basket au pied. Ils reconnaissent les violences sur les policiers. Certains avaient même préparé leur coup en venant avec des mortiers d'artifice sur les champs Élysée. Face aux juges, ils font profil bas, ils savent qu'ils risquent gros. La plupart d'entre eux ont un travail ou une formation. Ils disent regretter leurs gestes. Aucune condamnation ferme donc pour ces premiers prévenus. Quelques mois de sursis simple pour les plus grosses peines et un stage de citoyenneté. Au total, 13 prévenus doivent être déférés sur les plus de 300 gardés à vue à Paris, soit même pas 5%, un chiffre dérisoire. La majorité des émeutiers sont parvenus à prendre la fuite avant d'être interpellés ou ont été interpellés, mais faute de preuves, ils ont été libérés. sans poursuite.
Notez que Bruno Retailleau a été reçu à l'Élysée, cette fois-ci en tant que président des LR, dans le cadre des consultations sur l'introduction de la proportionnelle lors des scrutins législatifs. Bruno Retailleau y est opposé et il menace de démissionner du gouvernement s'il devait porter ce texte. Trois personnes interpellées après des jets de peinture sur le mémorial de la Shoah à Paris, trois synagogues et un restaurant juif. Il s'agit de ressortissants étrangers qui s'apprêtaient à quitter le pays. À Lyon, des tags pro-palestiniens, des croix gammées ont été tagués sur les murs d'une école primaire du 3e arrondissement, qui a aussi été en partie incendiée. Un choc pour la communauté éducative et une action antisémite dénoncée par Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation à la mairie de Lyon.
Ce sont des croix gammées, certaines références qui évoquent très clairement l'expression antisémite. Il y avait un tag hostile à Israël. Le caractère antisémite qui est vraiment intolérable auprès d'enfants dans un lieu de la République.
Et l'enquête pour retrouver les auteurs des faits s'annonce compliquée en raison du manque de caméras de vidéoprotection dans ce quartier de Lyon. Je vous le disais en titre, la statue de cire d'Emmanuel Macron s'est envolée du musée Grévin pendant quelques heures. Constat dressé par le personnel du célèbre musée parisien, la statue a été retrouvée devant l'ambassade de Russie. Une action revendiquée par Greenpeace. Le récit des faits avec Antoine Bienveau pour Europe 1.
Tout commence ce matin lorsque deux femmes et un homme se présentent à l'accueil du musée en se faisant passer pour des touristes. Une fois à l'intérieur du bâtiment, ils troquent leurs vêtements civils pour se déguiser en employés de l'établissement, puis s'emparent de la statue de cire du président avant de l'exfiltrer sous une couverture par une sortie de secours où les attend un véhicule complice. Des voleurs préparés qui ont su déjouer la sécurité, c'est ce qu'explique Yves Delomeau, directeur général du musée Grévin.
On s'en est rendu compte immédiatement, puisque l'alarme a sonné immédiatement. Mais ils étaient bien organisés, puisqu'ils avaient fait en sorte que l'agent qui surveille cette zone intervienne sur une autre zone en disant qu'une statue était tombée, ce qui a permis de ne pas surveiller cette zone pendant quelques minutes. Et la sortie de secours étant très proche, ils étaient déjà partis quand on est arrivé.
Une fois sortie du musée, la statue a ensuite été transportée et déposée devant l'ambassade de Russie dans le 16e arrondissement de Paris. Un drapeau russe ainsi qu'une pancarte « Business is business » ont été brandis pendant quelques minutes autour de la statue. Du président, une action revendiquée par Greenpeace qui dit vouloir dénoncer les importations françaises d'engrais chimiques russes. Et pour la petite histoire, avant Emmanuel Macron, les statues de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac avaient elles aussi été dérobées, ou encore celle de Georges Marchais, retrouvée dans la fosse aux ours du Jardin des Plantes.
Et à propos de la Russie, les négociations en cours en Turquie entre les délégations russes et ukrainiennes n'ont pas abouti à grand-chose. Elles se sont simplement mises d'accord sur un échange de tous les prisonniers de moins de 25 ans et ceux qui sont malades. Le président turc Erdogan souhaite organiser un sommet tripartite en présence de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump entre le 20 et le 30 juin. Il s'agirait cette fois-ci de parvenir à un accord de cessez-le-feu. À 11h56, la dernière pause de ce journal avant de défiler l'actualité sportive et notamment cet exploit de la joueuse de tennis tricolore Loïs Boisson, qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du 26 mai au 19 juin, faites pousser vos envies. La jardinière sur pied Venezia est à 2990 francs seulement. Alors profitez-en, cultivez vos aromates et légumes. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
Besoin de conseils peinture? Bienvenue chez NBO Colors.
Pour peindre vos intérieurs, rénover votre façade, sublimer vos boiseries ou rafraîchir votre logement avec une peinture anti-chaleur, faites appel au savoir-faire peinture et couleurs de NBO Colors. Du devis personnalisé à l'assistance chantier, les experts techniques NBO Colors vous guident dans le choix des meilleurs produits et systèmes pour vos travaux peinture.
Alors à bientôt chez NBO Colors, l'univers de la peinture pour professionnels et particuliers. 4 rue Fulton à Ducos, 43 43 00.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et avec du tennis, à la une de l'actualité sportive, parce que c'est une première depuis 2017, hommes et femmes confondus. Une Française est en quart de finale à Roland-Garros, Léo.
Oui, elle s'appelle Loïse Boisson, elle n'a que 22 ans et pourtant c'est déjà la sensation de cette 124e édition des Internationaux de France. Bénéficiaire d'une wildcard, invitation des organisateurs du tournoi, la Dijonnaise répond de la plus belle des manières après avoir battu Elise Mertens, 24e à la WTA. C'était au premier tour, elle a réalisé un nouvel exploit, cette nuit s'imposer sur la numéro 3 mondiale Jessica Pegula. Une victoire en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3. Et pour ça, elle a pu compter sur le soutien du public dans un court Philippe Châtrier-Bondé.
Je suis rentrée vraiment à l'aise, on va dire, sur le court. Je me sentais vraiment bien à l'échauffement. Voilà, forcément, c'était un peu impressionnant aussi au départ. Mais après, au final, quand le match il a commencé, je me suis bien sentie direct et ils sont vraiment derrière nous, c'est vraiment incroyable. Surtout à la fin, dans le troisième, le court il était quasi plein. Ouais, c'était incroyable, c'était vraiment hyper fort. Et au final, ils nous poussent et c'est génial, je ne peux pas rêver mieux.
Au prochain tour en quart de finale, donc la Française affrontera la jeune Russe de 18 ans, Mira Andreeva, 6e mondiale. Une adversaire au style de jeu bien différent de celui proposé par Jessica Pegula.
Bah, ça représente déjà beaucoup. Ouais, un quart de finale, c'est génial d'en être là. Je vois très bien comment elle joue. Elle varie plus. Je pense qu'il y aura plus d'échanges aussi. Je vais pas changer mon jeu. Je vais continuer dans la même filière. Après, voilà, j'espère aller encore plus loin. Et on verra comment ça se passe la suite.
Loïse Boisson, Mira Andreeva, quart de finale de Roland-Garros, est à suivre demain soir à partir de 20h, heure de Nouméa. Dans les autres quarts, la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, sera opposée à la chinoise Qin Wen Zheng. Duel 100% américain entre Coco Gauff, numéro 2, et Madison Keys, tête de série numéro 7. Enfin, Iga Świątek, tenante du titre, sera opposée à Elina Svitolina.
Et côté messieurs, Léo, les favoris sont au rendez-vous.
Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, pardon, et Novak Djokovic sont effectivement en quart de finale. Le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, sera opposé à Alexander Bublik, qui a réalisé la perf de la nuit en battant Jack Draper, numéro 5 à l'ATP. On aura le droit à un choc entre Novak Djokovic, qui atteint la barre des 100 victoires à Roland-Garros, et le numéro 3 mondial, Alexander Zverev. Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, affrontera Tommy Paul. Enfin, Lorenzo Muzzetti jouera contre Frances Tiafoe.
Et puis un mot de football pour refermer cette page au sport. Pas de Super League ce week-end, puisque c'est la trêve internationale.
La quatrième journée du championnat calédonien se jouera le week-end d'après, donc le samedi 14 juin. Quatre rencontres seront au programme, dont un très intéressant Horizon Passo Gaïcha. Mais en attendant, les sélections calédoniennes sont regroupées à Nouméa cette semaine. Le sélectionneur Johan Sidaner, qui pourra d'ailleurs compter sur la présence de 10 joueurs expatriés. Point d'orgue de ce rassemblement, un match de gala amical entre la sélection A et la sélection des moins de 20 ans. La rencontre est prévue samedi à 17h au stade Nouméa Dele. Elle sera diffusée en direct sur la FCF TV Web. L'entrée au stade sera de 300 francs.
Et puis je vous rappelle que le départ de la New Caledonia Groupama Race sera donné le 15 juin. Et à cette occasion, nous vous gâtons sur Radio Rythme Bleu avec la galerie Port Plaisance et ses commerçants, puisque vous pouvez remporter chaque jour de cette semaine un magnifique lot d'une valeur de 40 000 francs chez les enseignes préférées de la galerie. C'est très simple, pour participer à ce jeu, vous envoyez GR au 3146, GR au 3146. Chaque jour, un tirage au sort est effectué à 17h30 avec le nom du gagnant dans le journal de 17h45. Aujourd'hui, a gagné un bon lot d'une valeur de 41 000 francs. Écoutez, il s'agit de bons cadeaux chez Zen Boutique, Promode, Brandfolie, VIP, Marlène, California et Sandwich & Co, ainsi que deux bons de la galerie elle-même. C'est donc l'occasion rêvée de vous faire plaisir. Envoyez dès maintenant GR au 3146. Réponse tout à l'heure dans le journal de 17h45.